Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Les petits métiers de bouche au XIXe siècle. Le fabricant de crêtes de coq. Le XIXe siècle a été le siècle du vol au vent et des bouchers à la reine. La formule du vol au vent a été détaillée par Antonin Carême. On dit que, en cuisine, la pâte ayant été tellement réussie un jour que son chef pâtissier avait dit « Antonin, elle vole au vent ». La bouchée à la reine aurait été inventée pour Marie Leczinska, reine de France, épouse de Louis XV qui en raffolait. La farce traditionnelle de ces délicats feuilletages était faite de riz de veau, ou d'agneau, dit alors béatille, de petites quenelles et de blancs de volaille, d'abats, rognons et testicules de volaille, et de crêtes de coq, nappées de sauce financière ou suprême. La mode était telle que les crêtes de coq étaient très recherchées. Privat d'Anglemont, dans Paris Anecdote, préfacé par le grand gastronome et poète Charles Moncelet, nous a laissé l'extraordinaire histoire de Monsieur Lecoq, qui se qualifiait lui-même de bienfaiteur de l'humanité, car il fabriquait des crêtes de coq. Le père Lecoq habitait dans une cour du faubourg Saint-Antoine, où il existait une machine à vapeur reliée à un arbre de telle sorte que chaque locataire pouvait y adapter une machine. Monsieur Lecoq, constatant le manque de crêtes de coq et leurs imperfections naturelles, car elles étaient très irrégulières, décida d'y remédier. Il prit des palets de veau, de bœuf, de mouton, qu'il faisait longuement bouillir, puis qu'il aplatissait, et enfin qu'il passait sous le balancier de la machine pour les estamper et créer de fausses crêtes de coq à l'emporte-pièce. Si les crêtes de coq ainsi réalisées étaient plus régulières que les crêtes naturelles des coqs, elles ne présentaient qu'un seul défaut. Elles n'avaient des tubercules ou papilles que d'un seul côté, contrairement aux vraies crêtes de coq, ce qui permettait de les reconnaître sans faille. Ce bienfaiteur de l'humanité, comme il se qualifiait, estimait que chaque matin, il entrait à Paris 25 000 à 30 000 poulets, répartis entre les tables bourgeoises et les restaurateurs, pâtissiers et rôtisseurs, et il n'en restait donc plus que 10 à 12 000 crêtes de coq disponibles pour les vols au vent, timbales, coquilles et autres préparations de cet aliment alors si recherché, peut-être d'ailleurs pour des raisons non dites, puisqu'on lui attribuait des vertus aphrodisiaques. Monsieur Lecoq estimait donc qu'il rendait service en fabriquant la quantité de crêtes de coq nécessaire à la confection de tous ses plats. Les vendant 15 centimes la douzaine aux restaurateurs et 20 centimes aux cuisinières bourgeoises, il fit fortune. Il existait à l'époque de nombreux autres petits métiers, comme celui exercé par le père Montagatus. Officiellement chiffonnier, il achetait les peaux de lapin et, beaucoup plus curieusement, les têtes de ses animaux, aux cuisinières. En effet, sa principale occupation n'était pas l'achat des peaux de lapin et le chiffon, mais la chasse aux chats. Il disposait de ratiers, chiens qui chassent les chats, organisait la chasse à ces pauvres bêtes et les vendait ensuite, dépouillés, avec la tête d'un lapin, soigneusement bouilli, et tout le monde n'y voyait que du feu. Il préjugeait les habitudes alimentaires du siège de Paris en 1870, où l'on mangea les chats et les rats, que l'on trouva bons, bien plus que les chiens et les chevaux, que l'on estima guère, probablement en raison de tabous alimentaires ancestraux. Cette époque était bien pittoresque, puisque l'on élevait aussi des chèvres dans les soupentes. Pour fournir du lait à l'assistance publique, M. Jacques Simon élevait des chèvres au 5e étage rue d'Écosse, près du Collège de France, pour nourrir les nouveau-nés dont les mères manquaient de lait. Il nourrissait même ses chèvres parfois avec uniquement des carottes pour réaliser des régimes particuliers. Vraiment, à cette époque, si Paris était moins hygiénique et moins polissé que nos jours, il était beaucoup plus exotique en ces temps anciens.